Bonjour mamie, j'ai ramené un copain. Bonjour et bienvenue dans la cybersécurité expliquée à ma grand-mère, le podcast pour expliquer la cybersécurité à ceux qui n'y comprennent rien. Alors, il y a plein de sujets qui sont un peu énigmatiques en cybersécurité, souvent des sujets très techniques, et puis parfois aussi des sujets un petit peu presque de science-fiction. Et l'un de ces sujets, c'est justement l'ordinateur quantique, et savoir ce que cet ordinateur peut ou pas nous apporter en matière de cybersécurité. Et qui de mieux pour parler du quantique que certainement la personne la plus éclairée sur le sujet, et surtout celle qui arrive à le mieux vulgariser le sujet. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de l'accueillir dans cet épisode de ce podcast. Donc, c'est Olivier Ezrati. Vous le connaissez certainement parce qu'il produit un podcast, qui coproduit avec Fanny Bouton, qui est une autre spécialiste aussi du quantique. Donc, je mettrai évidemment le lien en référence. Et il est surtout l'auteur d'un livre qui est mis à jour très fréquemment, en anglais et en français. Alors, il fait 2 tomes. Donc,
en anglais uniquement maintenant. Hein,
en anglais uniquement, effectivement.
Et sur 3 tomes. Et sur 3 tomes.
Alors, il y a une augmentation en plus. Moi, j'avais
oui, entre la 2022 et la 2023, c'est passé de 2 à 3 volumes. Oui.
D'accord, de 2 à 3 volumes. Qu'est-ce que tu es prolifique. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir Olivier Ezrati dans mon podcast. Olivier, est-ce que tu veux bien te présenter brièvement?
Bonjour Nicolas. Oui, je suis maintenant consultant, auteur, enseignant, et j'ai plein d'autres casquettes d'ailleurs à ce titre-là, veilleur sur le monde des technologies quantiques, après avoir fait ça sur d'autres sujets. Hein. Avant, je faisais ça sur l'IA, sur les objets connectés, sur mon rapport qui a duré 15 ans là, sur le Consumer Electronics Show, là, le CES de Las Vegas, que j'ai fait entre 2006 et 2020. J'ai travaillé dans le monde de la télévision numérique et puis avant, j'étais dans le logiciel. Donc voilà, j'ai un parcours assez éclectique, mais là, en ce moment, je suis à 100% sur le quantique.
Super. Ben écoute, je crois que tu es la meilleure personne pour nous parler de ça. Et j'ai envie déjà de te poser une première question parce que ma grand-mère n'est pas très forte en physique quantique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, dans les grandes lignes évidemment, parce que je pense qu'on pourrait passer des mois à expliquer ce que c'est que la physique quantique, mais nous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est que la physique quantique et surtout ce que pourrait devenir ou ce que pourrait être l'ordinateur quantique.
Vaste programme. La physique quantique, c'est un champ de la physique qui est né au début du XXe siècle, hein, précisément 1900. Le mot quanta a été inventé par Max Planck, scientifique allemand, qui a découvert en gros que l'énergie se manifestait sous la forme de quanta, c'est-à-dire de quantités discrètes et pas continue, arbitraire, et ça c'est lié à la manière dont l'énergie est échangée en général entre la lumière et la matière. Donc on sait par exemple qu'un photon, quand il atterrit sur un atome, il va exciter un électron, cet électron va changer d'orbite, puis après l'électron il va se reposer, il va revenir à son orbite d'avant, et tout ça, ça va absorber ou émettre des photons, mais les photons qui sont absorbés et émis par ces atomes, quand ils interagissent avec des électrons, correspondent à des niveaux d'énergie très, très précis, qui correspondent à des orbitales et qui correspondent en fait à une discrétisation du monde physique, alors que dans le monde classique, ce n'est pas le cas. Quand tu prends une voiture, un avion, il peut voter à une vitesse qui est arbitraire, avec des limites, hein, entre 0 et on va dire 150 km ou 130 km sur la route. La position, la vitesse peuvent être arbitraires, alors que dans la physique quantique, à très bas niveau, quand on est au niveau des atomes, des électrons ou de la lumière, les énergies, les propriétés physiques de ces objets sont discontinues. Alors c'est dur à se représenter ça parce que c'est lié à des particules qui sont invisibles à l'œil nu. Hein. Donc par exemple, un atome, quand on l'excite, par exemple dans une ampoule sous vide avec de la lumière, il va émettre de la lumière. Et cette lumière, on est capable de l'analyser avec ce qu'on appelle la spectrographie. C'est un truc qu'on fait en astronomie, par exemple, hein, pour analyser les étoiles. Et on se rend compte que la spectrographie, ce n'est pas un spectre continu comme un arc-en-ciel, c'est des raies très précises qui correspondent justement à ces niveaux d'énergie qui sont ou absorbés ou émis par la matière. Mais ça, c'est que le début, c'est 1900. La suite de l'histoire de la physique quantique, qui continue jusqu'à aujourd'hui, c'est des découvertes d'autres postulats ou d'autres principes qu'on a pu observer et vérifier par l'expérience. Par exemple, un artefact qui est assez mystérieux, qui est le fait que les photons, les électrons, les atomes, bah, selon les circonstances et selon les expériences, ils se comportent comme des particules, avec une sorte de moment cinétique, de masse, ou des ondes qui peuvent générer des interférences entre elles. C'est ce qu'on appelle la dualité de particules. Alors, elle a été découverte d'abord par, disons, formalisée par Einstein en 1905 pour les photons, qui au départ étaient perçus comme étant juste des ondes, selon les théories de l'électromagnétisme de Maxwell des années 1865 et quelques. Mais on a découvert que, notamment via l'effet photoélectrique qui permet de capter de la lumière dans des cellules photovoltaïques, par exemple dans les panneaux photovoltaïques, ben ça, c'était plutôt lié à un comportement particulier de la lumière. Et ensuite, en 1924, c'est un Français qui s'appelle Louis de Broglie qui a, en gros, formalisé le même mécanisme, mais là, pour les électrons et les atomes. C'est-à-dire qu'à l'envers, les électrons et les atomes sont plutôt des particules avec des masses et des vitesses. Ben, en fait, dans certaines circonstances, peuvent se comporter comme des ondes. Alors, des ondes de matière, comme on les appelle. Ensuite, il y a plein d'autres choses qui ont été découvertes. Il y a le principe d'indétermination d'Heisenberg, qui veut dire qu'à l'échelle nanoscopique, on ne peut pas mesurer avec précision deux grandeurs complémentaires, comme la vitesse et la position d'une particule, avec une précision arbitraire. Ensuite, vers les années 1926 à 1935, on a aussi découvert que la matière avait cette capacité à générer ce qu'on appelle les états superposés, c'est-à-dire que, par exemple, un atome peut être en même temps dans un état au repos ou un état excité. On a découvert aussi des propriétés mystérieuses des électrons, qu'on appelle le spin, qui sont des choses qu'on ne peut pas représenter dans la mécanique classique, une sorte de rotation sur lui-même dans un sens ou dans l'autre, mais en fait, en pratique, ce n'est pas une rotation, c'est une espèce de propriété physique qu'on sait démontrer mathématiquement et qu'on sait aussi observer physiquement avec des expériences qui utilisent du magnétisme. Tout ça, c'est un champ extrêmement riche de la physique qui a été découvert au fur et à mesure. Alors, le dernier phénomène le plus contre-intuitif, qui a été formalisé autour de 1935, notamment par Erwin Schrödinger, c'est le phénomène de l'intrication. Alors ce phénomène-là, qui est fondamental dans les technologies dont on va parler tout à l'heure, c'est un phénomène qui veut que des objets quantiques, qui peuvent être des atomes, des électrons ou des photons, quand on les a préparés d'une certaine manière, par exemple en couple, hein, deux photons qui ont été éventuellement générés par l'excitation d'un même atome, ces photons, si on les envoie dans deux directions différentes, eh bien, quand on va mesurer les propriétés d'un des photons, puis après mesurer la propriété de l'autre photon, ils vont avoir des propriétés qui sont dites corrélées, c'est-à-dire qu'en fait, le résultat de la mesure sur l'un des photons va avoir une corrélation avec le résultat sur l'autre. Alors, c'est soit le même résultat, soit le résultat opposé, mais on a cette capacité à générer des états corrélés, et on appelle ça, dans le jargon de la physique quantique, la non-localité, c'est-à-dire que ça donne l'impression que ces deux objets quantiques à distance se sont influencés l'un vers l'autre, et en plus, plus rapidement que la vitesse de la lumière. Mais ça, c'est une perception liée à une sorte d'interprétation de physique classique de ce phénomène-là, mais on a démontré qu'il n'y avait pas forcément d'interaction, en fait. Il y a une corrélation entre des états, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une interaction. Et tout ça, qui est peut-être compliqué, probablement très compliqué à appréhender surtout et expliquer en très peu de temps, c'est utilisé dans une nouvelle génération de technologies quantiques qui sont regroupées en général dans trois grandes catégories. Il y en a une qui est la famille des ordinateurs quantiques, des machines qui sont censées calculer plus rapidement que les machines d'aujourd'hui. Il y a les communications et la cryptographie quantique, dont on va beaucoup parler. Et puis, il y a un autre domaine qui est moins visible dans l'industrie et dans le grand public, qui sont ce qu'on appelle les capteurs quantiques, qui sont des capteurs de grandeur physique pour mesurer la gravité, le magnétisme, la température, la pression, mais qui bénéficient des propriétés de la matière à l'échelle quantique et qui, grâce à cela, ont des précisions qui sont bien meilleures que ce qu'on a classiquement aujourd'hui.
Ok. En d'autres termes, la physique quantique nous ouvre un pan, entre guillemets, potentiel de technologies découvertes et surtout de solutions assez multiples. Et d'où l'intérêt d'ailleurs l'utilité de s'intéresser à ce genre de choses, parce que c'est un petit peu comme découvrir la machine à vapeur, quoi. Ça offre tout un ensemble de possibilités assez importants. Et alors, En cybersécurité, alors c'est marrant, tu faisais référence à la discrétion. J'avais fait référence à la discrétion, au fait que l'ordinateur travaillait...
C'est la discrétisation, c'est pas la discrétion.
Discrétisation, effectivement. Mais je fais référence, en fin de compte, à un livre qui s'appelle « L'éloge de la discrétion », au sens où ça définit exactement ça, c'est-à-dire que quand on discrétise les choses, on les rend un petit peu plus forcément découpées et séquencées. Et donc cette notion, j'y avais fait référence dans un épisode précédent pour expliquer comment fonctionne un processeur. Évidemment, il n'y a pas de liaison directe avec ce que tu viens de dire, mais c'est juste pour remettre un petit peu dans le contexte et le fait de voilà, que c'est la temporalité a une certaine importance.
Et d'ailleurs, il y a un point que j'ai oublié de citer, c'est que toutes ces découvertes liées à la physique quantique, avant la Seconde Guerre mondiale, elles étaient le couplage entre des expériences qui étaient faites par des physiciens expérimentalistes et des théoriciens. On a beaucoup retenu le rôle de Schrödinger, de Heisenberg, de Einstein ou de Planck ou de Niels Bohr, par exemple, qui sont des théoriciens. Mais derrière, il y avait aussi des expérimentateurs qui faisaient des expériences qui, parfois, n'avaient pas d'explication. L'effet Compton, l'expérience de Stern-Gerlach, c'est des noms pas très connus du grand public, en fait. Et toutes ces expériences, elles ont été expliquées après par la théorie. Et il y a beaucoup de cas de figure où l'expérience précédait la théorie. Il y a d'autres cas où la théorie a précédé l'expérience, notamment autour de tout ce qui est lié à la relativité d'Einstein. Et donc, il y a une interaction très forte entre les expérimentalistes d'un côté et les théoriciens de l'autre. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de citer, qui est quand même très important, c'est que les grandes découvertes de la physique quantique, entre 1900 et 1935, elles ont abouti à toutes les technologies qu'on utilise aujourd'hui déjà, à savoir nos laptops, nos téléphones, notre télévision, les satellites, l'IRM dans les hôpitaux. Toutes ces technologies-là reposent sur la physique quantique. Et il est très important d'arriver à faire la différence entre ce qui existe aujourd'hui, comme le transistor, qui s'appuie sur des phénomènes quantiques au niveau des atomes et des électrons et des semi-conducteurs, et ce qu'on associe aux technologies quantiques qu'on appelle quantique aujourd'hui. Alors, ton ordinateur, tu ne dis pas qu'il est quantique, alors pourtant, il s'appuie sur des phénomènes de la physique quantique. Ce qui différencie la technologie quantique, de nouvelle génération, et la technologie quantique du numérique d'aujourd'hui, c'est le fait de s'appuyer sur trois principes qui sont à peu près compréhensibles, qui sont la superposition et l'intrication que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est un petit côté un peu mystérieux, et aussi la capacité qu'on a maintenant, depuis quelques décennies, de manipuler individuellement des atomes, des électrons et des photons. On ne savait pas faire ça après la guerre. Un transistor, c'est des milliards et des milliards d'électrons qui se baladent dans des circuits. Aujourd'hui, on est capable de contrôler un électron, un photon, un atome. Et ça, c'est un peu magique aussi.
Ouais, c'est clair. Alors, c'est marrant que tu fasses ce parallèle entre les expérimentateurs et les théoriciens, parce que si mes informations sont correctes, il me semble que de grands théoriciens avaient justement prévu un certain nombre d'effets, par exemple le laser. Alors, je crois que c'était Einstein qui disait, bon, bah oui, d'un point de vue théorique, ça va fonctionner, mais bon, on ne sera jamais capable de le réaliser parce que les contraintes expérimentales sont trop importantes, etc. Et puis finalement, les expérimentateurs lui ont donné tort, puisque aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez courant. Donc, ce qui est marrant, c'est que...
Mais c'est arrivé dans l'autre sens. Ouais. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est arrivé dans l'autre sens. L'exemple, c'est un effet qui n'est pas très, très connu, mais l'effet Zeeman. Zeeman, c'est un scientifique hollandais qui découvre, quand on excite certains types d'atomes, ça génère des raies spectrales, mais il n'arrive pas à les expliquer. Et il fait ça à la fin du 19e. Et il faut attendre 25 à 30 ans pour expliquer ça, avec le spin des électrons, par exemple. Et donc, il y a eu, dans certains cas, des décalages de plusieurs décennies entre les expériences puis la théorie, et c'est vrai de la physique quantique, alors que dans le cadre de la théorie de la relativité, ou par exemple du laser, ça a été dans l'autre sens. Et la théorie a précédé l'expérimentation ou la mise en musique. Donc, l'histoire de la physique quantique et de la physique en général, c'est des allers-retours permanents entre l'expérience et la théorie.
Ok. Alors, ça me donne justement une très bonne transition sur le sujet sur ma deuxième question, finalement, sur l'aspect, enfin, l'impact que pourrait potentiellement avoir l'ordinateur quantique sur la cybersécurité. Alors, il y a beaucoup de serpents de mer en cybersécurité. Hein. Il y a plein de choses dont on parle. On ne sait pas toujours si c'est vrai ou pas. Il faut aller dans le détail pour comprendre un petit peu plus le sujet. Mais souvent, on associe l'ordinateur quantique avec le fait de casser des clés RSA. Alors, pourquoi ça fait peur à tout le monde ? Parce que la clé RSA, c'est un peu aujourd'hui le chiffrement asymétrique qui est le plus utilisé au monde, parce qu'à chaque fois que vous lancez une connexion HTTPS, il y a forcément du chiffrement RSA, etc. Donc, ça colle une peur bleue à tout le monde, parce que le jour où ce truc-là est cassé pour de bon, et on va dire de manière facile, il va falloir revoir un certain nombre de protocoles. Et souvent, on parle de l'ordinateur quantique comme étant justement le moyen de casser des clés RSA facilement. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver avant. Peut-être que l'ordinateur quantique va ouvrir aussi des possibilités en matière de chiffrement et distribution de clés aussi, qui vont être assez importantes. Donc moi, de mon point de vue, mais tu pourras le confirmer ou l'infirmer, mais j'ai l'impression que le jour où on sera capable de casser des clés RSA en quelques secondes, on aura déjà résolu pas mal de problèmes avant et ce ne sera plus vraiment un problème en réalité. Mais j'ai envie d'avoir un petit peu ta vision des choses, c'est-à-dire, selon toi, quelles vont être les avancées en matière de cybersécurité ? Est-ce qu'il y a vraiment des menaces ou pas ? Voilà. Quel est ton point de vue par rapport à ça ? Ordinateur quantique et crypto, ordinateur quantique et cybersécurité.
Module, le fait qu'on n'a pas expliqué ce que c'était qu'un ordinateur quantique, c'est un petit détail.
Exact. On va peut-être commencer par là. J'ai juste oublié un détail.
Ah, c'est un léger détail, parce que parler d'un objet abstrait sans définir ce qu'il fait et ses capacités, et aussi ses lacunes, parce que ce n'est pas encore tout à fait au point aujourd'hui. Hein. C'est assez important. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur quantique ? Un ordinateur quantique, c'est une machine qui s'appuie sur les principes de la physique quantique qu'on évoquait tout à l'heure et qui est censée permettre de réaliser des calculs qui seraient inaccessibles à des machines classiques. Ou en tout cas, il permettrait de les faire plus efficacement, plus rapidement ou avec peut-être moins de consommation d'énergie, disons des paramètres différents en termes de performance. Alors, les machines qui font ça n'existent pas encore. C'est ça le paradoxe. C'est que... Il y a beaucoup d'ordinateurs quantiques qui existent, notamment chez IBM, en France chez Candela, il y a Pascal aussi, une start-up française, il y a des sociétés comme IonQ, Continuum aux États-Unis. Il y a au moins une vingtaine de sociétés dans le monde qui ont des ordinateurs quantiques, qui sont dans le cloud, qui sont exploitables par des développeurs, qui sont expérimentables. Mais ce sont des machines qui aujourd'hui sont plutôt des prototypes qui n'ont pas encore délivré la promesse de réaliser des calculs à une vitesse plus grande que le calcul classique. Donc ça, c'est un point important à comprendre, notamment en regard de cette histoire de casser les clés RSA.
Ah, juste un tout petit point important, parce que quand on parle de puissance de calcul, le parallèle avec aujourd'hui, donc aujourd'hui, on peut utiliser des GPU, par exemple, pour faire beaucoup de calculs, etc. Donc ça va consommer beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. C'est ce type de calcul qu'on veut faire. En fin de compte, l'ordinateur quantique n'a pas pour but de faire tourner votre Excel plus vite, qu'on soit bien clair. C'est plutôt pour faire du calcul intensif et de résoudre des problèmes qui aujourd'hui ont une calculatoire trop importante, entre guillemets, pour être résolu, on va dire, dans un temps raisonnable. Ce que j'entends par temps raisonnable, c'est, on va dire, quelques mois, par exemple, contre quelques siècles et voilà, donc juste pour recadrer un petit peu, donc on cherche à obtenir de la puissance de calcul dans un temps, on va dire, beaucoup plus court.
Alors, on peut donner un petit peu une perspective sur l'origine de l'idée. L'idée de créer ces machines-là, elle est venue de plusieurs scientifiques autour des années, fin des années 70, début 80. Il y en a notamment un qui est resté dans les mémoires, qui est Richard Feynman, prix Nobel en 65, sur un sujet pas très grand public, qui était l'électrodynamique quantique, mais qui était une branche de la physique quantique. Et ce Richard Feynman, en 81, il a fait une conférence et publié un papier où il émettait l'idée que pour résoudre des problèmes de simulation numérique de phénomènes quantiques, qui ont une caractéristique, c'est que leur complexité manque de manière exponentielle avec le nombre d'objets quantiques qu'on veut simuler, eh bien, la solution, c'était de s'appuyer sur des machines elles-mêmes quantiques. Par homothétie, c'est-à-dire en se disant pour calculer du quantique, utilisons le quantique plutôt qu'utilisons le classique, l'informatique classique.
Quantique, on va commencer par celle de la fameuse phrase de Richard Feynman, s'il vous plaît, mademoiselle. Personne ne comprend vraiment la physique quantique, hein, Richard Feynman. Donc voilà où on en est, c'est-à-dire que Richard Feynman, fer de lance de la physique quantique dans le monde, personne ne comprend vraiment la physique quantique. Il faut quand même avoir des bollocks pour la sortir sans perdre une dent, celle-là. Là, voilà, c'est-à-dire que personne ne comprend vraiment la physique quantique, lui non plus, c'est bien de l'admettre. Non, moi je le connais un peu, hein, je le connais comme ça, c'est vrai, on a bossé sur le même accélérateur de particules à une époque. Gros projet, budget européen, bon, fonds publics, c'est vrai que... Nous, on était au garde-à-vous avec les équipes, dès l'aurore, voilà. Richard Feynman arrivé à 11h. Voilà, bien sûr, la blouse dégueulasse, des taches de sauce de kebab de là à là, voilà, c'est tout. Dis, Riri, oh, scoute-toi un peu, essaye de faire semblant de pousser trois potards, quelque chose, tu prends un ordinateur, tu mets une feuille Excel, rentre des chiffres, quelque chose. Que si les gens nous regardent par la vitre, qu'ils aient pas affaire à des Romano, voilà. Mais la physique quantique a coupé absolument tout contact.
Ça, c'était l'idée de départ. Je dirais, l'attraction pour l'ordinateur quantique, elle est venue au départ de la capacité à résoudre des problèmes de simulation numérique de phénomènes physiques. Et on comprend que ce soit intéressant, par exemple, dans le domaine de la chimie, dans le domaine de la biologie moléculaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de tous les domaines où on manipule des molécules, en fait, ou des réactions chimiques. Et donc, simuler numériquement des réactions chimiques ou des systèmes chimiques, c'est très compliqué de le faire de manière classique. Ça évolue effectivement de manière exponentielle, voire au-delà, en termes de complexité calculatoire avec des supercalculateurs existants. Donc l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser les principes de la physique quantique pour simuler numériquement, plus efficacement, ces systèmes-là. Alors il se trouve que ça fait partie d'un des grands domaines d'application potentiel des ordinateurs quantiques. Pour l'instant, on n'arrive pas encore à le faire de manière efficace, mais c'est un des objectifs. Mais effectivement, en 94, alors qu'on en était au tout début des ordinateurs quantiques, à la limite, en 94, il n'y avait même pas d'ordinateur quantique dans l'absolu. On ne parlait même pas de qubits à l'époque, ces fameux objets quantiques qui sont dans deux états superposés. Eh bien, un scientifique américain qui, à l'époque, travaillait dans les Bell Labs, qui s'appelle Peter Shor, invente un algorithme qui s'appuierait sur ces principes de la physique quantique et qui permettrait de factoriser plus efficacement des nombres entiers de grande taille, ceci pouvant mener au fait de casser des clés publiques dans la cybersécurité à base de cet algorithme RSA. Cet algorithme, il avait à l'époque, dans les années 90-2000, été testé sur le nombre 15, puis après le nombre 35. En fait, 30 ans plus tard, on en est à peu près au même niveau. Hein. On est capable de factoriser avec cet algorithme un nombre assez limité d'entiers, en tout cas avec des tailles assez limitées. Paradoxalement, il y a d'autres algorithmes que l'algorithme de Shor qui permet de casser des entiers plus grands, mais qui ne vont pas jusqu'à casser des clés RSA de type 2048 bits, telles que celles qui sont utilisées couramment aujourd'hui. Ça, c'était le deuxième cas d'usage pour l'ordinateur quantique. Et puis, il y a un troisième et un quatrième cas d'usage qui sont arrivés depuis, avec la conception d'autres algorithmes. Un, c'était la résolution des problèmes de combinatoire qui, eux aussi, peuvent augmenter de manière exponentielle en temps de calcul classique. Typiquement, des choses qu'on a dans ton métier, dans le domaine de la finance. Hein. Dans le domaine de la finance, optimisation de portefeuille, analyse de risque, protection contre les taux de change, etc. Tout ça s'appuie sur des combinatoires très élevés et avec des croissances exponentielles de calcul classique pour les résoudre. Alors aujourd'hui, on résout ça avec des méthodes empiriques. On utilise des méthodes dites de Monte Carlo, par exemple. On fait des échantillonnages un peu aléatoires pour éviter de tester toutes les hypothèses. Et les algorithmes quantiques, le jour où les machines, pour les supporter, le permettront de faire ces calculs d'optimisation de manière plus efficace. Ça concerne aussi tout le monde de la logistique et des transports, où on a en général soit des moyens de transport qui doivent passer par plusieurs étapes, et ça consiste à résoudre ce qu'on appelle le problème du voyageur du commerce, soit des portes-containers optimisés, soit de la logistique optimisée. Donc, en gros, des problèmes d'industrie où il y a plein de combinatoires, pas forcément beaucoup de données d'ailleurs, mais beaucoup de combinatoires. Et puis, il y a un dernier cas d'usage qui est apparu plus récemment, on va dire il y a une quinzaine d'années, qui est l'usage de l'ordinateur quantique pour résoudre des problèmes dans le domaine du machine learning, ce qu'on appelle l'IA, donc le machine learning pour des besoins divers et variés. Alors, ce qu'on sait par contre, et je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail comment marchent les ordinateurs quantiques, mais il y a deux choses qu'on sait. C'est que, un, les ordinateurs quantiques, même quand ils vont être capables de faire des choses extraordinaires dans plusieurs années, ils ne seront pas forcément adaptés à traiter de gros volumes de données. Ce n'est pas fait pour la big data. Donc les gens qui disent « Ah, on va faire un ChatGPT avec un ordinateur quantique », souvent quand ils disent ça, ils ne connaissent pas l'ordinateur quantique, et ils ne se rendent pas compte que le temps de chargement des données dans une machine quantique, ce n'est pas très rapide, donc ce n'est pas adapté. C'est un point très important. Le deuxième, c'est que le temps de calcul n'est pas instantané. Tu disais tout à l'heure casser en quelques secondes une clé RSA. Aujourd'hui, avec des estimations qui sont faites sur des machines qui ne vont pas exister avant une dizaine à une vingtaine d'années, on est entre 8 heures et 4 jours pour casser une clé RSA. Alors, c'est acceptable quand on veut casser quelque chose qui a beaucoup de valeur diplomatique ou militaire ou autre, probablement. Mais ce n'est pas instantané. Ce n'est pas casser le Bitcoin instantanément. Quoi. C'est lent. Quoi. Mais c'est plus rapide que des milliards d'années.
Toujours.
C'est ça l'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, casser une carré, je crois que ça se compte en dimensionnement qui est de l'ordre de l'âge de l'univers avec des machines classiques aujourd'hui.
Oui,
donc, tu remplaces l'âge de l'univers par 4 heures ou 8 heures ou 4 jours, c'est acceptable, si le besoin le mérite. Quoi. Donc, c'est deux choses à avoir en tête quand même, parce que c'est loin d'être évident. Alors, il me faut expliquer pourquoi ça ne marche pas encore. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons à notre disposition des ordinateurs quantiques qui utilisent ce qu'on appelle des objets quantiques, qui sont des qubits. Donc, c'est ces fameux systèmes, alors qui sont de nature différente. Ça peut être des atomes, des électrons, des flux d'électrons supraconducteurs, ça peut être des photons. Il y a plein de techniques différentes. Il y a une zoologie d'ordinateurs quantiques absolument extraordinaire. Moi, j'ai compté plus de 30 types d'ordinateurs différents. C'est pas juste des ordinateurs au silicium comme ce qu'on fait dans le classique aujourd'hui avec du CMOS. Le quantique, c'est un monde où il y a une très très grande diversité de technologies et qui ont des niveaux de maturité différents, des cycles de mise au point qui sont relativement lents. Et donc aujourd'hui, on a en gros entre quelques dizaines et quelques centaines de qubits qui sont disponibles. Notamment, on a chez IBM une machine qui fait 133 qubits qui s'appelle Heron. Ils ont beaucoup de noms d'oiseaux chez eux sur les ordinateurs quantiques, qui est pas mal. Mais tous ces ordinateurs quantiques qui sont aujourd'hui proposés dans le cloud par leurs constructeurs, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont bruités. C'est ça qui est bizarre à comprendre. Parce que quand on fait du calcul classique, on n'a pas d'erreur, en gros. Hein. Il y a très peu d'erreurs dans le calcul classique. Parce que justement, les bits qui sont à 0 ou 1, ils sont à 0 ou 1, mais ils ne sont pas entre les deux. Et il y a très, très peu d'erreurs. Et les erreurs, on les a plutôt dans le monde des communications. Et on a des codes de correction d'erreurs pour les communications. Mais dans les ordinateurs et dans la mémoire, il y a relativement peu d'erreurs. Il y avait historiquement des erreurs dans le stockage, dans les disques durs. Maintenant, il y en a de moins en moins. Mais les erreurs dans le calcul classique, elles se comptent sur des probabilités qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 14, quoi, à moins 18. C'est des erreurs très, très peu fréquentes. L'ordinateur quantique, lui, aujourd'hui, il utilise des objets quantiques qui sont analogiques et qui ont une caractéristique, c'est qu'ils sont très bruités et génèrent des erreurs qui sont significatives. Aujourd'hui, si on prend les machines courantes, elles font à peu près une erreur pour 100 opérations. Sachant qu'il faut au moins réaliser des milliers d'opérations pour faire quelque chose d'utile. Donc, on comprend bien que si on fait 1000 opérations et qu'il y a un pourcentage d'erreur à chaque fois, avec les mathématiques du collège, on comprend qu'au bout de quelques dizaines d'opérations, on n'a plus que 0% de bons résultats. Donc, ça ne va pas le faire, quoi. C'est pas utilisable. Alors, donc, les chercheurs et les industriels dans ce domaine-là, ils ont dans leur besace deux idées. Il y en a une première qui est de dire on va faire ce qu'on appelle de la correction d'erreur et on va en gros démultiplier les qubits et créer ce qu'on appelle les qubits logiques, c'est-à-dire des qubits qui associent plusieurs qubits physiques. Et dessus, on va appliquer de la correction d'erreur pour faire des qubits qui, vu de développeur, vu de l'application, vont avoir moins d'erreurs. Et des erreurs qui seront à un niveau beaucoup plus bas et acceptables pour les besoins applicatifs. Il faut savoir, par exemple, que pour calculer, pour factoriser un nombre entier dans l'idée de casser une clé RSA de type 2048 bits, il faudrait avoir un taux d'erreur qui est de l'ordre de 10 puissance moins 11 à moins 13. Alors qu'aujourd'hui, on est à 10 puissance moins 2 en taux d'erreur. Donc, ça veut dire qu'il faut gagner au moins 9 à 10 ordres de grandeur en qualité des qubits. Alors, la conséquence de ça...
Juste, si je fais une toute petite illustration par rapport à ce que tu viens de dire pour que tout le monde puisse bien comprendre, alors tu vas me dire si j'ai bon. C'est un petit peu comme dans un orchestre où tout le monde joue de manière, on va dire, plus ou moins juste. Certains sont meilleurs joueurs que d'autres, mais en moyenne, on a l'impression que c'est un peu plus juste. Donc j'ai l'impression que c'est cette notion de multiplier, entre guillemets, le nombre de joueurs qui jouent peut-être pas forcément extrêmement bon, enfin extrêmement bien, mais in fine, à la fin, donne un résultat qui est à peu près acceptable. Est-ce que c'est à peu près cette notion ou pas ?
C'est une métaphore, je suis pas sûr qu'elle soit exacte scientifiquement, mais c'est une métaphore, comme une autre.
D'accord. Ouais.
Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est moi. Bon, vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphant, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 17. Hop. Alors.
Faut savoir que, par exemple, on ne peut pas dupliquer les objets quantiques indépendamment les uns des autres. On peut les cloner, mais de manière à ce qu'ils soient intriqués, donc ils soient interdépendants. Et on est obligé d'utiliser des astuces mathématiques et physiques extrêmement complexes pour faire la correction d'erreur sur ces qubits. Donc, c'est des gymnastiques intellectuelles qui vont au-delà de l'exemple que tu donnes, qui est de dire, ouais, on va regarder la moyenne de plusieurs instruments et qui font que de loin ça va être la bonne note, quoi. C'est comme un orchestre symphonique où il y a un violon de travers, on l'entend pas forcément, quoi. Non, c'est une métaphore, mais de près mathématiquement elle n'est pas tout à fait exacte, quoi, c'est ça. Alors la conséquence de ce que je viens de raconter, en tout cas, et de notre histoire d'orchestre là, c'est que on a besoin d'un taux de redondance qui est extrêmement élevé. Par exemple, dans les communications classiques, on rajoute un bit de parité, comme on dit, hein. Il y a 8 bits de communication, on rajoute un 9e de parité, avec ça, on arrive à faire de la correction d'erreur. Eh bien, dans le cadre du calcul quantique, c'est quasiment inversé. Pour faire un qubit qui marche, il en faut entre des dizaines et des milliers. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça multiplie la quantité de ressources physiques qu'il faut mettre en œuvre, ça multiplie la quantité de matériaux, la quantité d'énergie pour les piloter, de câbles, de lasers, selon les cas de figure. Et donc, ça crée un surcoût matériel qui est assez significatif. Et d'ailleurs, l'un des grands enjeux, c'est de faire en sorte que les qubits dits physiques, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment dans le matériel, soient les meilleurs possibles pour éviter que ce taux de redondance soit trop élevé. C'est ce que fait Alice and Bob en France, par exemple. Eux, ils ont trouvé une technique qui permet de limiter le besoin en redondance et qui permet de baisser ce besoin pour certains types de cas d'usage, de l'ordre de 1000 qubits physiques pour faire un qubit corrigé, à plutôt une quinzaine. Ça change significativement l'ordre de grandeur. Donc, il y a des tentatives sur plusieurs, je dirais, gammes de technologies pour limiter les dégâts au niveau de ce facteur de redondance. En tout cas, il est très élevé. Il est beaucoup plus élevé que dans l'informatique classique, et ça a un coût. Et mettre au point tout ça, bah, c'est compliqué, parce qu'en fait, plus on multiplie le nombre de qubits qu'on veut contrôler, plus on se retrouve dans une situation où il est assez difficile de maintenir dans des états superposés, des états intriqués, ces objets quantiques en grand nombre dans un système contrôlé. Et donc, c'est un vrai problème de physique compliqué à gérer. C'est de la physique et de l'électronique et des lasers, d'ailleurs, en général. C'est un mélange de tout ça. Et c'est très compliqué de gérer ça. Et c'est pour ça que ça prend du temps à être mis au point. Et c'est pour ça que certains disent, d'ailleurs, qu'on n'y arrivera jamais aussi. Et c'est pour ça qu'en général, les roadmaps des constructeurs sont plutôt assez long terme. Donc, les roadmaps qui permettraient de casser une clé RSA, si on va chez IBM ou chez d'autres acteurs américains ou chez des acteurs français, c'est des roadmaps qui sont étalés sur 10 à 20 ans. Mais ce n'est pas dans 3 ans, quoi. C'est pas dans 5 ans. Pour donner un ordre de grandeur, les roadmaps les plus ambitieuses qu'on a aujourd'hui chez IBM ou aussi chez Alice and Bob, dans les photons avec Psiquantum aux États-Unis, qui est une start-up qui a levé 700 millions à peu près, les roadmaps visent à atteindre ce qu'on appelle une centaine de qubits logiques, c'est des qubits corrigés, d'ici 2030 à 2033. Je parle de 100 qubits corrigés. Pour casser une clé RSA 2048 bits, il faudrait de l'ordre de 6000 qubits corrigés.
Pour résumer,
par rapport à 100. Ouais, donc c'est encore plus. Ouais. Et passer de 100 à 6000, c'est pas clac, on multiplie les processeurs, on met plein d'armoires côte à côte. Hein. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que ça pose des problèmes de physique fondamentaux, très complexes à résoudre. Et ça veut dire sauter au moins deux générations technologiques pour y arriver avec des incertitudes en matière de physique, en matière expérimentale, et ça prend du temps à mettre ça au point. Tout ça pour dire que les ordinateurs quantiques qui vont casser des clés RSA de type 2048 bits, ils ne sont pas prêts d'arriver, quoi. Ça prendra du temps. D'ailleurs, dans les roadmaps des uns et des autres, l'une des roadmaps qui semble donner l'impression que c'est plus proche que si c'était plus loin, c'est celle d'Alice and Bob, qui est une société française. Donc eux, ils pensent qu'ils vont pouvoir casser une clé RSA avec seulement 350 000 qubits physiques. Alors que chez Google, c'est de l'ordre de 20 millions. Donc passer de 20 millions à 350 000, ça devient, on pourrait presque dire, raisonnable. En sachant qu'aujourd'hui, ils ont 16 qubits physiques. Aujourd'hui, ils vont peut-être avoir une centaine de qubits logiques d'ici quelques années. Mais là, il faudra atteindre 350 000 qubits physiques. ça crée des défis technologiques extrêmement lourds, et c'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est pour ça que la menace est très lointaine. Alors, c'est une menace contre laquelle on se protège déjà, puisqu'il y a des techniques dont on va parler visant à se protéger contre ces menaces. Mais c'est des techniques qui ne sont pas liées à l'ordinateur quantique, en fait. Quand on parle de cryptographie quantique, le terme cryptographie quantique n'est pas lié à l'ordinateur quantique. C'est très ambigu. Le terme cryptographie quantique, aujourd'hui, tel qu'il est utilisé, il recouvre des techniques de génération de clés aléatoires entre deux parties prenantes, au deux bouts d'une ligne télécom, qui s'appuient sur les principes de la physique quantique, à base de la lumière essentiellement et de photons, mais ce n'est pas du tout de l'informatique quantique, ce n'est pas de l'ordinateur quantique. Donc en fait, la cryptographie quantique ne repose pas sur un ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, aujourd'hui, c'est, dans un futur assez lointain, comme on vient de le voir, un outil de cryptanalyse, pas de cryptographie, cryptanalyse visant à casser des clés, mais ce n'est pas un outil de protection du chiffrement,
ça, c'est
des
un
données
point...
chiffrées.
Ouais. Alors ça, c'est quand même un point, je pense, hyper important à bien comprendre. C'est que il y a un peu, on va dire, deux selles, deux ambiances. D'une part, entre guillemets, donc ce que tu viens de décrire, donc l'ordinateur quantique qui permettra d'avoir une puissance de calcul nettement plus importante et qui pourra potentiellement un jour être utilisé pour faire de la cryptanalyse, casser des clés RSA, etc. Mais en même temps, on travaille déjà sur des choses aujourd'hui qui ne sont pas du tout liées à la machine quantique, mais qui ont peut-être, entre guillemets, une capacité de vivre peut-être à plus court terme, ou en tout cas un degré de réalisation peut-être plus court que la machine quantique. Comme tu l'as expliqué très justement, on ne risque peut-être pas d'en voir une sur notre bureau tout de suite avant 15 ou 20 ans, quoi. Alors justement, sur cette deuxième partie, c'est-à-dire sur la cryptographie quantique, est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus et nous expliquer ce qu'il y a derrière tout ça ?
En fait, dans le monde de la cryptographie qui résiste à l'ordinateur quantique, il est essentiellement, on pourrait le classifier en trois grandes parties. Et il y en a deux qui sont connues, une troisième qui est moins connue. La première, c'est ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, mais qui n'est pas quantique. Donc c'est une cryptographie classique qui repose sur la création de clés d'une certaine taille, qui sont assez grandes en général, et ces clés ne peuvent pas être cassées par des algorithmes quantiques d'un point de vue théorique. Donc c'est une protection mathématique. Alors ces algorithmes, il y en a plein, et ils ont été notamment normalisés, enfin, ils sont en cours de normalisation par le NIST aux États-Unis et par l'ETSI en Europe. Il y a quatre algorithmes de signature et de chiffrement qui ont été validés par le NIST, d'ailleurs dont trois sur les quatre ont été créés avec des contributions françaises importantes, hein, notamment de Normal Supplion avec Damien Stélé. Et ces algorithmes, c'est des algorithmes classiques. C'est ce qu'on appelle les algorithmes résistants au quantique, mais ils n'ont rien de quantique, en fait. C'est juste des problèmes mathématiques. Le problème mathématique permettant de casser les clés sont incompatibles avec les capacités anticipées des ordinateurs quantiques du futur. Donc, on considère que le problème mathématique visant à casser les clés est tellement compliqué, tellement tordu, que même un ordinateur quantique, malgré tout ce qu'on peut faire de moderne dans les algorithmes quantiques, ne pourrait pas casser ces clés. Donc, ça, c'est la crypto post-quantique. Alors, le petit nom qu'on lui donne, c'est PQC, post-quantum cryptographie. Mais post-quantum, c'est sous-entendu cryptographie qui est utile après l'avènement de l'ordinateur quantique qui casse la crypto et à ça. C'est ça. Le post vient de là. Le post, c'est après l'arrivée de l'ordinateur quantique.
Alors, juste pour résumer très brièvement pour nos éditeurs, surtout pour ma grand-mère, parce qu'elle n'a peut-être pas trop suivi, la cryptographie...
Grand-mère, elle
toujours...
est déjà morte, hein, parce que là...
elle est morte plusieurs fois, déjà. ouais. et donc, alors, la crypto se base toujours, enfin, la plupart du temps, sur un problème mathématique qui est difficile à résoudre, ce qui fait la solidité donc, du déchiffrement. Il y a plein
c'est ce qu'on appelle la crypto à clé publique, si on faut préciser les choses. C'est une cryptographie asymétrique à clé publique où on envoie une clé non chiffrée qui sert à chiffrer l'information et c'est celui qui envoie cette clé qui possède les éléments de la clé permettant de déchiffrer l'information. Mais la personne qui chiffre l'information a juste besoin de la clé publique et c'est celui qui la déchiffre de l'autre côté qui a besoin de la clé privée. Et le fait de décomposer une clé publique en clé privée est un problème mathématique et censé être inaccessible aux ordinateurs classiques.
Voilà. Et donc, ce que tu viens de décrire là, c'est qu'on a trouvé des nouveaux problèmes mathématiques qui vont sous-tendre finalement le protocole de chiffrement, qui, eux, résistent finalement à l'ordinateur quantique, pour résumer
en théorie, brièvement. En théorie.
Parce que,
Ils résistent aussi à l'ordinateur classique.
Il faut espérer, parce que si on fait quelque chose qui peut être cassé sur une machine standard...
C'est pas prouvé, parce qu'en fait, la notion de preuve mathématique de l'incapacité à casser une clé, c'est une preuve qui peut s'avérer être insuffisante.
Alors justement,
c'est déjà arrivé par le passé.
Exactement, c'était un peu ma question, parce que autant pour le RSA, il y a pas mal de gens qui ont bossé dessus pour dire on est vraiment sûr du truc, c'est complexe et voilà, on est à peu près sûr de ça. Quand on parle des logarithmes discrets, soudainement, il y a quand même moins de certitude, c'est un peu plus compliqué. Là, on parle de certaines catégories de chiffrement qui n'ont pas encore été prouvées. Et surtout, le problème, c'est que c'est un peu l'état actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, on peut considérer que c'est solide, mais on n'est peut-être pas à l'abri de quelqu'un qui va faire une découverte mathématique ou va trouver des heuristiques dans le futur qui vont permettre de trouver une faille et accélérer peut-être le temps de calcul. Donc ça va être certainement un grand sujet de discussion dans le futur. Donc là, on vient de résumer finalement ce que c'est que la cryptographie post-quantique, qui n'est pas quantique, mais qui pourra résister à l'ordinateur quantique. Quoi d'autre ?
Alors, il y a une autre technologie qu'on évoquait tout à l'heure rapidement, qui s'appelle la cryptographie quantique, elle. Donc, qui repose sur des principes de la physique quantique, notamment sur la transmission de photons sur des lignes optiques. Alors, ça passe par fibre ou par satellite, mais surtout par fibre optique. Et ça, c'est une protection qui est plutôt physique, plutôt que mathématique. C'est une protection physique qui repose sur le fait que quand on va générer des clés dites quantiques, enfin, c'est des clés classiques, mais générées à partir des principes de la physique quantique, on a une protection physique sur le fait qu'il est très difficile d'intercepter la clé sans que ce soit vu des personnes qui la gèrent des deux bouts de la ligne. Et donc, ça permet de limiter les dégâts sur la protection de la clé. Et en plus, les méthodes les plus récentes pour faire ça, qui utilisent l'intrication, permettent de générer des clés qui sont totalement aléatoires des deux côtés de la ligne. C'est-à-dire que la technologie de distribution de clés quantiques historique, c'était on prépare une clé classiquement, éventuellement avec un générateur nombre aléatoire classique ou quantique au niveau du point d'émission, et la transmission de cette clé est protégée par la physique quantique. Ça, c'est la première génération. Les Américains, ils appellent ça le prepare and measure. La deuxième génération qui est en cours de mise au point, c'est une génération qui s'appuie sur de l'intrication et qui a une caractéristique, c'est que la clé elle-même qui est générée des deux côtés de la ligne de communication est totalement aléatoire.
Alors, Olivier a écouté cette bande avant cette diffusion, comme on le fait à chaque fois, et il tenait à préciser quelque chose d'assez important par rapport à cette séquence. C'est qu'il précise ici que les clés sont créées de manière simultanée de part et d'autre du lien de la communication. Il précise que c'est un cas particulier. Et dans la majorité des cas, c'est-à-dire dans un cadre d'usage plus classique, en réalité, la clé est générée d'un côté et transmise de l'autre, comme ce qu'on voit assez souvent en cryptographie. Mais comme je pense que vous êtes tous des spécialistes en physique quantique, vous avez corrigé de vous-même, bien évidemment.
Et c'est garanti par la physique quantique. Et grâce à ça, on ne peut pas la deviner en fait, à l'avance. Quoi. C'est une clé qui est totalement aléatoire. Alors, ça, c'est une meilleure protection.
Ouais. Si je fais juste un parallèle par rapport au début de notre discussion, et surtout au HTTPS, puisque c'est ça qui protège, on va dire, la quasi-totalité de l'Internet mondial. Quand on regarde le fonctionnement de HTTPS, donc tu as parlé de déchiffrement asymétrique tout à l'heure avec des clés publiques, des clés privées, cette partie-là permet d'échanger la clé symétrique qui permet ensuite de gagner en performance et surtout de faire du chiffrement symétrique de part et d'autre. Ça, c'est pour très brièvement, entre guillemets, illustrer ce qu'on appelle Diffie-Hellman, donc le protocole qui est utilisé pour permettre d'échanger une clé symétrique de manière sécure, enfin de manière sûre.
Oui, tout à fait.
Ce que tu viens d'expliquer là, c'est quelque chose d'assez fantastique parce que en informatique, on sait tous que dupliquer une donnée, c'est quelque chose d'assez facile. Même sur le réseau, ce qu'on appelle l'IP mirroring par exemple, c'est ni plus ni moins que recopier les données qui passent sur un câble par exemple, et il n'y a rien de plus simple que de copier des données. Ce que tu viens d'expliquer là, c'est que les données qui passent via un canal de communication, si par hasard, enfin, quelqu'un essaie de les copier, bah, ça invalide automatiquement le canal de communication. Et donc, du coup, il n'y a plus besoin de s'embêter finalement.
On ne pourra pas les copier parce qu'en fait, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on ne peut pas les copier.
Oui, exactement. Donc,
parce qu'il faut avoir ce qu'on appelle une base de mesure, et la base de mesure, elle est inconnue de la personne qui fait l'interception. Donc, il va récupérer du gloubi-boulga, quoi. Il ne va pas pouvoir récupérer la clé, quoi. De toute façon, en plus, elle est générée de manière totalement aléatoire. Et donc, c'est irrécupérable. Enfin, en théorie. Il y a des loopholes, comme on dit, il peut y avoir des attaques, des side attack channels, des choses comme ça, mais en gros, la partie physique de la création de la clé avec des photons, elle est extrêmement bien protégée. Mais tu as raison, la différence entre la cryptographie post-quantique et la cryptographie dite quantique, c'est que la première est asymétrique, au même titre que RSA, et la deuxième est plutôt symétrique. C'est-à-dire que on génère la même clé des deux côtés d'un canal de communication, mais il y a une symétrie entre les deux parties, quoi. Il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre, il n'y en a pas une qui émet ou une clé et l'autre qui la reçoit. C'est une clé qui est privée, qui est générée simultanément des deux côtés d'une ligne de communication, et c'est plutôt adapté à des réseaux de communication, on va dire, très sécurisés. Donc, typiquement, pour les backbones d'opérateurs télécoms, pour de la communication étatique, par exemple, potentiellement, des ambassades, pour des entreprises qui ont besoin de lignes spécialisées, des fibres noires pour relier des sites. C'est plutôt adapté à ce genre de méthode. Alors, sachant que, notamment les Chinois et l'Europe qui s'y prépare, expérimentent ça aussi avec des satellites. On est capable de faire ça avec... une liaison photonique aérienne dans l'infrarouge. Donc, il y a cette possibilité aussi. Mais il y a une troisième possibilité que je n'ai pas évoquée encore et que j'ai découvert relativement récemment, c'est qu'on peut potentiellement utiliser aussi des ordinateurs quantiques pour chiffrer de l'information. Mais ça fait partie, on pourrait dire que c'est une forme de cryptographie quantique qui est vraiment liée à l'ordinateur quantique, mais c'est une méthodologie dont on parle très peu et pour cause, puisqu'il n'y a pas encore d'ordinateur quantique qui fonctionne bien aujourd'hui. Ça supposerait de pouvoir relier entre eux deux ordinateurs quantiques à distance. On est loin du compte encore pour le faire. Donc, c'est une technologie dont on parle peu, mais à terme, on pourra potentiellement s'appuyer sur une cryptographie qui repose sur la communication entre ordinateurs quantiques. Et ça, c'est un troisième volet, mais qui est très futuriste par rapport aux deux précédents que j'évoquais tout à l'heure.
On est déjà pas mal dans le futur quand même.
Bah oui, et en plus, c'est très difficile de faire la part des choses et d'arriver ne serait-ce qu'à segmenter correctement les différentes technologies. L'erreur classique que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de croire que la cryptographie quantique, ça s'appuie sur des capacités d'ordinateur quantique, c'est une erreur, c'est un contresens qui est fait par pas mal de gens, simplement parce que c'est un domaine compliqué à appréhender et qu'il faut se plonger dedans pour comprendre de quoi il s'agit, quoi.
En tout cas, Olivier, un grand merci de nous avoir éclairé justement sur tous ces aspects. Alors, je mettrai juste en description de cet épisode, évidemment, toutes les ressources dont vous avez parlé. Je ferai référence aussi à un épisode de No Limit Sécu, que je salue au passage, qui a été justement sur un des aspects, je pense, de tête, c'était la distribution des clés quantiques, je crois. Mais je vais pouvoir regarder ça et vous mettre les éléments en description. Olivier, peut-être le mot de la fin ou envie de conclure sur ce sujet ?
Alors, en fait, on a été très rapide. Hein. Je pense que le sujet mérite d'être creusé, comme dirait l'autre. Hein. Je vous invite à consulter dans mon livre le chapitre qui porte là-dessus, qui fait une centaine de pages quand même en anglais. D'ailleurs, mon livre actuellement en anglais n'existe plus en français, hein, pour précision. Hein. Je me suis passé du français à l'anglais en 2021. Comme on dit en américain, there's no turning back. C'est-à-dire que je reste en anglais et il faut s'appuyer sur les outils de traduction maintenant qu'on est en ligne pour revenir au français, le cas échéant. Et mon livre open source, il faut le préciser, hein, il fait près de 1400 pages, il est en open source, il est téléchargeable gratuitement en PDF. Et donc vous avez 100 pages liées à la cryptographie quantique, mais complétées par des pages qui décrivent évidemment la manière dont fonctionne un ordinateur quantique, et c'est loin d'être trivial, quoi. C'est important de comprendre tous les défis qui se présentent aux concepteurs de ces machines-là pour les mettre au point. En tout cas, c'est un domaine passionnant. Moi, ça fait 5-6 ans que j'y suis. C'est un domaine où j'en découvre tous les jours. C'est un des domaines où j'ai jamais vu autant de science et de technologie réunies dans plein de disciplines complémentaires. Et ça prend du temps de s'y plonger parce que c'est pas trivial. Moi, je fais de la physique, des mathématiques, de la technologie, de l'électronique, de l'optique, de la thermodynamique, de la mécanique des fluides, de l'algorithmie, de la théorie de la complexité, de la cryptographie, tout ça mélangé, quoi. Et c'est C'est, par certains côtés, moi qui suis un ingénieur généraliste, c'est le bonheur des ingénieurs généralistes, ce petit monde du quantique, parce qu'on est obligé de toucher à tout.
Ben en tout cas, j'espère que ça a peut-être suscité des vocations auprès de certains de nos auditeurs. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants. Donc justement, ça les a peut-être intrigués et donné envie justement d'aller un petit peu plus loin dans cette direction. En tout cas, Olivier, encore un grand merci d'avoir participé à cette émission. Ma grand-mère te fait un gros bisou. Bon, elle me dit qu'elle n'a peut-être pas forcément tout compris, mais elle va lire avec
C'est
attention ton
probable,
livre.
c'est très probable. Tu sais, quand on parle de technologie quantique, plus on résume, plus on trahit la pensée, parce que on est obligé de simplifier énormément des choses qui sont assez complexes. Dans mon cas de figure, moi j'ai mis des mois et des mois à comprendre certains principes de base, hein. Et je conçois que quand on l'explique de manière vulgarisée comme ça, il y a plein de choses qui passent au-dessus de la tête, parce qu'il y a tellement de concepts nouveaux. On ne peut pas les absorber en si peu de temps. C'est comme l'apprentissage à l'école. On ne peut pas apprendre en une heure ce qu'on apprend entre la sixième et la terminale, quoi. C'est le même principe.
C'est sûr, mais c'est ça qui rend la matière
Ouais.
passionnante, justement.
Exactement. Mais on ne peut pas compresser avec un taux de zip trop élevé, quoi. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on nous demande de faire, nous, les vulgarisateurs du quantique. On nous demande de zipper l'équivalent de toute la scolarité en une heure.
Ah oui,
Bah, on a du mal, on a du mal.
oui, bah,
Ouais.
je comprends effectivement, parce que le but de ce podcast, effectivement, c'est de faire de la vulgarisation aussi. Et c'est toujours un peu le dilemme entre trop vouloir résumer et rester quand même sur quelque chose qui soit factuel et on va dire juste quand même d'un point de vue technique. Et c'est la grande difficulté justement des gens qui essaient de vulgariser.
D'ailleurs, ça se traduit dans la manière dont des gens comme moi se comportent. C'est-à-dire qu'on doit faire très attention aux mots qu'on utilise. On doit faire attention à leur polysémie, parfois, des mots qui ont plusieurs sens. On doit être vraiment très, très précis. Tu vois, quand je te dis la cryptographie post-quantique, c'est pas quantique, bah c'est très important de le préciser. Tu vois. Ou la cryptographie quantique, elle ne relève pas de l'ordinateur quantique, alors qu'on pourrait associer l'un à l'autre, parce que les mots sont voisins. Donc la sémantique utilisée dans la vulgarisation est extrêmement importante et la précision est importante. Et en tout cas, je m'y attache, moi, quand j'ai l'occasion de le faire, pour éviter les contresens. Et il peut y en avoir beaucoup, des contresens dans ce domaine-là.
Mais j'imagine bien. En tout cas, encore un grand merci d'avoir participé à cette émission, à cet épisode. Chers auditeurs, vous l'avez compris, c'est un vaste sujet. Je vous encourage à lire le descriptif de cet épisode dans lequel vous aurez toutes les ressources nécessaires. Et j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur les aspects de l'ordinateur quantique et surtout sur l'avenir finalement de ce qui va se passer sur ce sujet. Et je terminerai juste par ce que je dis à chaque fois. Pour certaines personnes, la cybersécurité est un enjeu de vie ou de mort. C'est bien plus sérieux que ça.